48 FM.
C'est les Slick John au couloir numéro 2. Allez, les Slick. C'est parti pour les Slick John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Yutan Diapéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 79e Instant Sport avec une actualité qui est quand même chargée aujourd'hui, comme nous n'avons pu nous voir la semaine dernière, faute de jours fériés. Et d'ailleurs, vous allez voir dans cette émission, les lignes ont un peu bougé dans les sports lausériens et mandois. Salut Patrick, de retour.
Oui, bonjour à toutes et à tous, et salut à vous tous, mes chers collègues.
Et pas trop fatigué après cette grande soirée d'élection présidentielle hier soir?
Non, ça va, ça s'est bien passé. Bien récupéré, aucun souci.
Alors toi, tu as le choix entre l'élection présidentielle ou Barcelone-Real de Madrid, et tu choisis l'élection présidentielle.
Heureusement qu'on avait les moyens technologiques, donc sur certaines fenêtres, on pouvait voir un peu le défilé des scores aussi bien de Monaco que de ce fameux Classico.
Et c'est pas grave en plus, parce que tu as vu ce formidable Nancy-Marseille qui était programmé le vendredi.
Qui m'a fait attaquer le week-end sur les chapeaux de roue.
C'est ça. Laurent, lui, se lève toutes les nuits pour suivre Portland. Mais t'inquiète pas, Laurent, c'est bientôt terminé. Tu vas pouvoir te reposer.
Oui, en effet. Bonjour tout le monde. Portland mal attaqué contre la grande équipe des Warriors. Mais on les a quand même inquiétés puisque les premiers matchs sont finis qu'avec 4 ou 6 points d'écart, je sais pas. Donc bon, tout n'est pas perdu. Tant que c'est pas perdu, c'est pas perdu.
Tant que c'est pas fini, ouais. Tu as raison, c'est pas fini. D'ailleurs, toi, Aurélien, grand fan de basket, tu peux le dire, hein, c'est pas fini pour Portland.
C'est pas fini, pas encore. Presque, mais c'est pas fini.
Mais quasiment, parce que le pourcentage, quand tu perds 3-0 et gagner 4-3, c'est arrivé à très, très peu de fois.
Avec un super duo de McCullum et j'imagine
Damien
Lillard. Qui mettent tous les points de Portland.
Et les statistiques, c'est un petit peu le problème, d'ailleurs. On pense à Barcelone-Paris. Hein.
Ouais.
Parce qu'il y a personne d'autre.
Moi, c'est ça.
C'est ça. Lui, t'as pas trop la forme, toi, aujourd'hui, Julien.
Non, mais bonjour à toutes et à tous. Fidèle au poste, quand même.
Quand même.
Je me devais de venir.
Julien a décidé de dormir dans un sauna cette nuit. Ah bon? Il a mis le chauffage à fond, il a dormi, après il s'est dit il fait un peu chaud, j'arrive pas.
J'ai pas choisi, malheureusement.
T'as pas choisi. Ouais. Et un match, en plus, tu te fais un peu mal, tu t'es blessé.
À la tête, ouais.
À la
tête. Quand tu perds 2-1 au Chastel, ça fait mal.
Mais bon, c'est ça, c'est les victoires, les défaites, hein, ça fait partie de la vie sportive.
Après le mal vieux, le Chastel, ouais. C'est vrai que ça fait mal. Hein.
Non, mais depuis que Laurent joue plus, c'est la débandade, cette équipe.
Jamais perdu au Chastel.
Laurent, ça t'est jamais arrivé, toi, ça, Laurent.
Non, surtout qu'il y avait une belle équipe 3, en plus, ce week-end, j'ai vraiment été étonné du score, mais bon, bravo au Chastel qui a joué sur ses valeurs.
Et sur son terrain.
Et sur son terrain, digne du Camp Nou, ouais.
Allez, pas mal d'actualités, donc j'ai dit en préambule de cette émission. Tout d'abord, le football, parce qu'il y a quelques semaines de moi, on se moquait de moi hein, quand je disais que l'AFL pouvait monter et aller faire une remontada.
Tu l'as jamais dit, ça. C'est moi qui le dis depuis toujours. Et tu te fous de moi depuis des semaines et des mois, donc là, je savoure.
Je ressortirai les bandes de M. Patrick Biocon.
Ouais, tu peux le ressortir.
Et au vu des 3 derniers résultats, ça commence à chauffer. Hein. Après avoir battu le leader, l'AFL est allé gagner chez le deuxième. Donc ça, c'était il y a 2 semaines, on ne l'a pas vu. Et de fort belle manière, hein. 5 buts à l'extérieur contre Bourgoin. Triplé de Diallo, but de Gourma et de Mboup. Puis ce week-end à domicile contre le nouveau dauphin, la réserve d'Aurillac, 3-1.
Non, l'équipe première d'Aurillac.
L'équipe première d'Aurillac. Ah, c'est oui. Pas la réserve, non, d'accord. Non. Autant pour moi. L'équipe première, Diallo encore une fois, Gourmand encore une fois et Rebelosso. Du coup, au classement, Aurélien, ça nous donne.
Du coup, au classement, Saint-Priest toujours premier avec 43 points. Deuxième, Limonest, 39 points. Troisième, Mende avec 39 points. Et quatrième, Saint-Etienne, la réserve de Saint-Etienne avec 38 points, mais avec un match à moins.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le match de Cournon qui a été arrêté, c'est ça?
Oui, comme on en parlait avec Julien avant de commencer cette émission, on joue les arrêts de jeu à Cournon, il y avait 2 partout. Et puis, quelques excités ont balancé des projectiles, fumigènes, canettes de bière, etc., etc. Donc l'arbitre, alors qu'il
restait
quasiment rien à jouer, bon, l'arbitre s'est senti menacé,
a décidé
d'arrêter le match. Alors maintenant, c'est à la fédération de décider.
Alors la jurisprudence Lyon-Metz,
il y a plusieurs solutions, hein, ou match perdu par Cournon, ou score entériné à deux partout en considérant qu'il restait quasiment rien, ou alors un match quasiment à rejouer depuis le début. Donc c'est vrai que ça met beaucoup d'incertitudes.
Ou alors on rejoue le match à partir de la 92e.
Voilà, bon, ça paraît quand même un peu
probable. Il a raison, Laurent, c'est déjà arrivé.
Ouais, les séances de pénalty même.
C'est déjà arrivé, c'est surtout en Italie, je crois qu'ils font, ils font souvent comme ça.
C'est plus rare
quand même en France. Donc ça fait quand même une incertitude, on le voit au classement, parce que Saint-Etienne, même en étant une équipe réserve, a la possibilité d'accéder au CFA. Donc c'est un candidat sérieux à la montée. Donc ça rajoute de l'incertitude pour la fin de saison.
Voilà, parce qu'on rappelle donc le premier monte et après c'est le meilleur second des quatre poules, que pour savoir quel est le meilleur second, c'est calculé par rapport aux six premiers de chaque poule, ce qui nous arrange vu que les premiers ont les bas.
Exactement. Donc il faudrait calculer. C'est une émission qu'on pourrait donner à notre ami Julien.
J'y ai pensé, mais je me suis dit que tant que t'es pas sûr qu'il soit deuxième.
Qui est fanat de ce genre de calcul. Et donc, comme tu l'as dit, il y a 8 poules en CFA2. Donc les 4 meilleurs seconds accèdent au CFA. Et donc, c'est vrai qu'on a battu pas mal d'équipes qui sont bien classées, ce qui est bon pour nous. Et on a perdu des points contre des mal classés. En particulier, quand tu regardes la fin de classement, on a fait match nul contre l'île Rousse, on a fait match nul contre Cournon, on a fait match nul contre Bastia aussi. Oui. Ça peut nous permettre peut-être d'être dans ces quatre meilleurs seconds. Après,
faut-il terminer second.
Voilà, tu t'es arrêté au quatrième, mais quand tu vois le septième qui est Bourgogne-Joyeux, et t'as 38, c'est-à-dire à un seul point derrière nous. Donc voilà, toujours est-il qu'on peut prendre un engagement, il reste 3 matchs. Oui. Si on gagne les 3 matchs, à mon avis, on monte.
Mais c'est ça que je voulais dire par rapport à ce que dit Patrick, c'est que la semaine dernière, donc l'AFL va gagner à Bourgoin qui est deuxième, et là aujourd'hui ils sont septième, quoi. Donc ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Si tu gagnes, tu te retrouves propulsé deuxième, et si tu perds, tu peux vite être huitième, puisque même Borgo qui est huitième, ils sont qu'à 2 points de l'AFL. Quoi.
Moi, je fais mon mea culpa, puisqu'il y a un mois de ça, quand j'avais rigolé, je m'étais pratiquement moqué de vous, d'ailleurs, en entendant ça. Et puis, il faut quand même reconnaître que l'AFL est toujours bien placée dans la course. Donc, je m'excuse auprès des dirigeants et éducateurs, entraîneurs de l'AFL, puisque je me suis encore une fois vautré.
Et
on verra la fin de saison.
Faut t'avouer, et t'as demi par
là. Voilà, ils sont encore en course, bravo. Et ça promet une fin de championnat super intéressante. À commencer par ce dimanche avec un déplacement compliqué à Saint-Etienne. Mais bon,
on va en parler, ouais. Laurent.
Mais on disait souvent dans cette émission que les deux défaites contre Limonest pouvaient être préjudiciables. Et au final, on se retrouve avec le même nombre de points de Limonest.
Et pourquoi on est
parce que c'est le goal-average particulier. Ouais. On a perdu deux fois contre Limonest, donc c'est normal que ce soit troisième et eux second.
Par contre, pour le reste, c'est bon. Aurillac, c'est bon. Louan-Cuiseau, c'est bon. Et Saint-Etienne, si on fait un résultat chez eux, ça sera bon.
Louan-Cuiseau, il reste encore un match.
Encore le match retard.
On les reçoit.
On a fait quoi là-bas? On les a pas battus.
On avait fait match nul.
Match nul.
Sous la neige.
De partout sous la neige.
Sous la neige.
Ah d'accord. Ok. Alors ce week-end, déjà sur ce match-là, tu as pu te rendre au chapitre, Patrick?
J'ai raté ce match, mais on m'a dit un match avec un public totalement incandescent. Il paraît qu'il y avait plus de 1000 spectateurs payants dans les tribunes hyper garnis.
Déjà, les supporters de Riac avaient fait des cars.
C'est ce que j'allais dire.
Donc, j'ai vu des supporters sur la place du Foirail avec les cars au nom du club. Les supporters suivent leur équipe, donc c'était chouette, je pense.
Et on m'a raconté vraiment une anecdote qui fait plaisir à voir dans ces temps troublés que traverse le football. Les supporters d'Aurillac distribuaient des porte-clés à tous les supporters de l'AFL dans les tribunes. Et il y a eu vraiment une ambiance et une symbiose entre les deux camps de supporters qui était vraiment excellente à voir. Et donc chapeau à cette équipe d'Aurillac et à ses supporters pour leur faire play, et il paraît qu'il y a eu un match magnifique avec notre Fadil Gourmand qui revient à son niveau stratosphérique qu'on lui a connu ces dernières saisons, et donc sa doublette avec Diallo maintenant est une force quasiment imbattable. Rebolloso aussi monte terriblement en puissance. Donc notre attaque de choc et notre défense qui se met au diapason de l'attaque, ça laisse augurer de trois derniers matchs vraiment énormes pour nos couleurs.
On sait que l'AFL finit toujours bien ses saisons, hein, depuis toujours.
C'est vrai.
Il le prouve encore une fois, on peut espérer là cette année.
Ben oui,
ça va être compliqué.
Pour être plus sérieux, moi, ça fait des semaines et des mois que je vous le dis. Vous me répétez, ouais, pour un promu, c'est bien le milieu tableau, 6e, 7e, 8e, c'est notre place. Moi, je vous dis, le président Laurère, en début de saison, me l'avait dit, qu'il visait les 5 premières places. J'étais entièrement d'accord avec lui. Et à partir du moment où tu vises les 5 premières places, eh ben, quand il arrive à 3-4 derniers matchs, eh ben, voilà, tu peux espérer beaucoup mieux. Eh ben, on est totalement dans ce schéma-là. Et malgré les différences de budget, parce qu'on connaît le budget, par exemple, d'un club comme Louan Cuiseau, ça n'a rien à voir avec celui de l'AFL. Louan Cuiseau, ils ont un budget, je crois, 3 fois supérieur à celui des Mandois. Et malgré ça, vu l'effectif qu'on avait et le groupe qu'on a, je savais qu'on pouvait avoir joué les premiers rôles, et c'est vraiment super. Et justement, le public répond présent, et toute la ville et tout le département se prend à rêver, pourquoi pas, de cette montée en CFA. Avec le volet, ça ferait un doublé merveilleux pour le sport au Mandois et aux Arriens.
Oui. Alors, je le disais il y a 15 jours, quand Gourma va, tout va.
Mais tu as raison, c'est une bonne formule.
Pour être un peu plus sérieux, Patrick parlait de l'attaque. Justement, après ce match, on est devenu la meilleure attaque de ce groupe de CFA2.
Bien relevé.
Donc, c'est,
bien
vu. C'est vrai que vraiment, l'attaque joue son rôle à plein. Et j'ai regardé un petit peu les derniers matchs de l'AFL. Et depuis ce fameux 5-0 qu'on s'est pris à Clermont, il me semble, messieurs, l'AFL est reparti sur les chapeaux de roue. Alors, on disait, peut-être injustement, que maintenant que l'AFL n'avait plus rien à jouer, il jouait libéré, du coup c'est pour ça qu'il gagnait les matchs. Est-ce que du coup c'est pas justement cette fameuse défaite 5-0 qui a remis un petit peu les pendules à l'heure, qui a fait se remobiliser le groupe? Je pense que le coach, après cette défaite, a dû avoir un discours mobilisateur et a remis un petit peu les pendules à l'heure. Donc ça a peut-être été un mal pour un bien, cette raclée.
On va demander à nos deux footballeurs, est-ce que ça peut permettre une grosse défaite et de se dire qu'on a moins de choses à jouer, de jouer justement plus libéré et mieux au football?
Bah oui, moi je l'avais dit, le fait de perdre 5-0 à Clermont, il y a 3 semaines à moi, là, c'était donc avant ces 3 victoires d'affilée, on avait l'impression que ça y est, c'était fini, qu'ils étaient décrochés, que voilà, ils avaient un super calendrier, puisque au moment du match de Clermont, ils devaient jouer les 5 premiers, donc Saint-Priest, Aurillac et Bourgoin. Et puis au final, je pense que les 2 victoires contre Saint-Priest et Bourgoin ont dû donner quelques idées aux joueurs. Et maintenant, avec la victoire d'Aurillac, ça vient amener un petit peu plus de mordant, de piquant à cette fin de saison. Et là, je pense que sur les 3 dernières journées, on n'est pas dupes. Hein. À partir du moment où en CFA2, on est 3e à 3 journées de la fin, je pense que là, ils n'ont plus envie de se cacher et l'objectif, c'est la montée. Mais comme le dit Aurélien, oui, je pense que la défaite de Clermont, finalement, a été un mal pour un bien, pour remettre un petit peu les idées à plat dans le groupe et repartir de façon assez exceptionnelle avant les 3 dernières journées.
Laurent?
Ouais, ben quand tu prends une fessée cul rouge comme il y a eu à Clermont, ben soit tu sombres et la fin de saison est cauchemardesque, tu baisses les bras, tu dis bon ben voilà, c'est râpé, ou alors tu réagis bien. Donc là, c'est ça a été le cas, très bien, très très bien. Donc on disait que là maintenant ils jouaient sans pression, donc du coup ça leur a permis de faire des beaux matchs, des belles victoires, mais du coup maintenant il y en a de la pression finalement. Donc est-ce que ça va être le cas, de la pression, un petit enjeu, je veux dire, c'est pas une pression, l'objectif n'était pas de monter, donc il y a pas une très grosse pression, mais maintenant il y a un enjeu, donc on va voir comment ils vont digérer cette nouvelle place, cette 3e voire 4e place si Saint-Étienne a un match gagné, et on va voir. Mais ça va être super passionnant.
Là, justement, où était mon interrogation, c'est que nous, on disait qu'ils jouaient sans pression, mais est-ce que eux vraiment jouaient sans pression? Est-ce que justement, ils se sont pas remobilisés? Est-ce qu'ils se sont pas remis une petite pression pour aller plus haut, pour essayer de gagner des matchs? Et est-ce que justement, ça a eu cet effet-là?
Je pense que l'avantage qu'ils ont eu aussi après la défaite de Clermont, c'est qu'ils avaient des super matchs à jouer. Ils n'avaient pas le bas de tableau, genre Cournon, Île-Rousse, où tu te dis finalement tu rentres dans une fin de saison un petit peu sans enjeu, puisque tu es décroché, tu vas affronter le dernier, l'avant-dernier. Et même si t'as rien à jouer, bah, t'affrontes le premier, le deuxième, bah, t'as forcément envie de gagner. Et je pense que ce calendrier.
Et surtout, t'as rien à perdre.
Bon point. Ouais, voilà.
Quand tu joues contre les premiers, t'as rien à perdre.
Ce calendrier.
Alors que quand tu joues contre les derniers, bah, tu dois les gagner. Quoi. C'est ça la différence.
Oui, Patrick ?
Non, mais c'est vrai qu'après Clermont, moi-même, je pouvais penser que peut-être une démobilisation. Alors, peut-être pas de tout l'effectif, mais au moins d'une partie de l'effectif. Bon, pour ceux qui ont. Fait des sports collectifs, on le voit. C'est vrai que tu as un groupe, par exemple, de 20, 25, et c'est compliqué d'être tous au même degré de motivation, de forme, toujours tout au long de la saison. Donc, suivant l'évolution des résultats et du classement, tu peux avoir une partie plus ou moins grande de l'effectif qui se dit, voilà, tu prends 5-0 à Clermont, tu regardes le classement, on est en roue libre jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est vrai que j'avais quand même ce petit doute dans la tête, et c'est là que les leaders du groupe justement doivent intervenir, et c'est certainement ce qui a dû se passer, parce que on l'a vu, il y a eu au contraire une remobilisation totale, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est quasiment en position de second, et donc de faire les calculs pour savoir si on est dans les 4 meilleurs seconds.
Mais en tout cas, il y a une chose qui est importante aussi à dire, c'est qu'après Clermont, le groupe n'était pas démobilisé, loin de là.
Voilà, au vu des résultats, oui.
Ouais, non, mais ne serait-ce que par rapport au match, parce que c'est vrai, quand on voit 5-0, on peut se dire, bon, voilà, on a pris une fessée. Mais alors, certes, ça a été une fessée, mais
le fessée cul rouge.
Ouais. Mais le groupe n'était pas abattu, en fait. Ils savaient que, ils étaient dans un jour sans. Ils étaient tombés contre une super équipe de Clermont, où en plus, après un quart d'heure de jeu, il y avait déjà 2-0.
Donc, 8 minutes de jeu.
8 minutes.
Mmh. 8 minutes. Deuxième
but. Voilà. Donc voilà, dans ces scénarios-là, voilà, c'est un jour sain, mais le groupe n'était pas abattu, quoi. Et aussi, j'ai parlé des trois premiers, il y a aussi eu le match de coupe contre Nîmes Olympique, qui a permis de vite se remettre dans le droit
vrai,
chemin.
C'est vrai, on l'a oublié ce match.
Ils se sont vite remis dans le droit chemin, ils ont éliminé la réserve du Nîmes Olympique, et donc à ça aussi, ça a permis de relancer la marche en avant, et voilà, et maintenant, on verra ça où on sera dans trois journées, mais il y a tout pour faire une super fin de saison maintenant.
Voilà, et du coup, Mende qui a attendu, Galtier a fait descendre trois joueurs professionnels pour le match contre Mende, parce qu'il a un peu peur. C'est qui
Mais il y a Dabo, l'ancien Montpellierain,
Ousmane.
Et Tanan, l'international marocain, qui devait reprendre avec l'équipe 1 et qui avait été envoyé gentiment en CFA2 pour remettre les idées à sa place. Galtier avait été gentil avec lui, il avait offert 45 minutes au Vélodrome, mais... il n'avait pas été bon, donc il est en fin de saison, jusqu'à la fin de saison en CFA2. Et Nolan Roux, l'attaquant.
Alors Nolan Roux, il faudra m'expliquer, parce que
on a bien compris
c'est un
Galtier
mystère
comptait
pour moi.
Il compte plus sur lui, là, c'est évident.
C'est vrai. Il n'y a pas de mystère, il marque 4 buts par saison quand tu es attaquant.
À Lille, il était bon quand même. Enfin,
il était surtout bon à Brest.
À Brest, voilà. Oui, non, à Brest,
c'est vrai. Il était surtout bon à Brest. Après, Brest, quand ils étaient montés en D1, il avait fait une super première partie de saison, puisqu'après 19 journées, ils étaient leaders, et il y en avait certains même qui l'envoyaient déjà en équipe de France, je me rappelle. Mais ça reste, je pense, un bon attaquant de club, mais peut-être pas pour Saint-Etienne, peut-être un peu plus bas.
En CFA2.
Voilà, Montpellier. Et il va finir Montpellier. du coup, juste pour conclure, je pense que la fin de saison va être super passionnante au niveau du championnat, mais comme tu rappelais, il y a encore cette finale de Coupe Garloser à jouer contre Rousson. Rousson qui joue les premiers rôles en DHR. Ouais. Donc voilà, super fin de saison pour les supporters de l'AFL.
Et j'ai un message de Brieux qui nous écoute et qui dit qu'aucun pro n'a joué à Dives ce week-end avec Saint-Etienne, qui avait ni Dabo ni Roux et qui ont quand même gagné 1-0.
Ouais. D'accord. Et oui, il est descendu pour Mende pour l'AFL.
D'accord.
C'est ce qu'on disait. Oui, il a dit c'est Galtier qui l'a annoncé là, qui faisait descendre.
Finalement, ils sont meilleurs. Saint-Etienne, ils sont meilleurs sans les pros, quoi.
Mais de toute façon, Galtier fait ça depuis le début de la saison, puisqu'il a envoyé quand même pas mal de joueurs pro régulièrement en CFA2. Alors, il y en a qu'après quand même certains qui reviennent en équipe 1. On pense à Cornier, qui a été longtemps puni donc avec la CFA2 et qui a refait son comeback dans l'équipe 1. Et, bon, donc avec Galtier, cette saison, c'est quand même assez compliqué de le suivre quand même dans la gestion de son
équipe. Il avait fait pareil avec Lemoine aussi. Qui a fait quelques matchs en CFA2 et qui est retourné chez les pros. Quoi.
Et pour la finale de la Coupe Garloser, signalons que Marve Jol a posé sa candidature pour organiser cette finale.
Ah, ce serait bien ça.
Voilà,
ça serait
sympa. Marve Jol a officiellement envoyé un courrier auprès du district Garloser pour se porter candidat à l'organisation de cette finale. Donc c'est maintenant au district.
Et on a la date ?
la date
Non, je n'ai pas la date non plus. Mais je sais que Marojol a envoyé son courrier.
Mais il ne devrait pas être choisi, vu qu'il y a un club lausérien.
Et alors, pourquoi ça serait dans le Gard s'il y a un club gardois?
Non, mais ce serait peut-être dans l'Hérault.
Ah, mais non, c'est Gard lausérien.
Donc rien n'empêche que cette finale soit organisée à Marojol.
Ah, ça pourrait être bien, ça.
Bah oui.
Ça donc ça c'est très sympa, très sympa au club de Marvejol d'avoir proposé son service à l'AFL, enfin à l'AFL, au football lausérien, mais pour aider l'AFL aussi.
Le Chastel Nouvelle aussi a proposé, mais
ouais. je ne suis pas sûr que les dimensions du stade soient, ni les barrières d'ailleurs.
Alors la semaine prochaine, donc, enfin ce dimanche plutôt, on va à Saint-Etienne, et dans le même temps il y a Aurillac qui reçoit Limonest, donc ça c'est intéressant aussi parce que
et en
ça...
plus on saura le résultat puisque tout le monde joue samedi et il n'y a que nous qui jouons le dimanche.
Pourquoi on joue le dimanche?
Parce que c'est une réserve et Saint-Etienne joue toujours ses matchs le dimanche.
D'accord. Pour pouvoir faire jouer des joueurs au cas où.
Ça c'est pas normal quand même, hein, que tu puisses descendre des joueurs à certains matchs et pas d'autres matchs, ça te fausse un championnat. Hein.
Oui, mais c'est un peu ce qu'on pratique aussi, puisque nous on a une équipe réserve en DHR, il y a des joueurs qui jouent...
Un PHA, pardon.
Puisque des fois il y a eu des matchs où il y a eu des remplaçants qui ont joué moins d'une mi-temps et qui ont moins de 23
ça.
Ans.
C'est ça.
Qui sont les jouer le lendemain et qui préservent. Donc là, on en joue aussi, alors on peut pas trop le critiquer.
Ouais, c'est normal. Parce qu'on est dans les, on est en fin de championnat, les cinq dernières journées, donc les règlements
c'est
sont,
plus possible,
sont un peu différents. Ouais.
Bon, c'est pas grave, on a fait l'avance maintenant.
Ouais, c'est
bon.
C'est ça.
Ok, mais tu me tends la perche pour parler de, justement de l'équipe réserve. Alors, tant que je recherche, qui était exempt, mais qui avait perdu la semaine d'avant.
1-0 à Monoblé, sur pénalty.
Voilà, mais qui reste quand même premier championnat.
Oui, premier. Et,
combien 5 points d'avance
5 points d'avance, et puisque Chusclan a fait un partout contre Générac ce week-end.
Et, mais Saint-Privat a gagné à l'extérieur 5-1.
Saint-Privat a gagné 5-1, mais Saint-Privat a fait 2-2 cette semaine à Aigues-Mortes, en match en avance.
Ah d'accord.
Ce qui fait que ce week-end, on reçoit Canabier à 16h sur le chapitre honneur. Et en cas de victoire, le titre sera officiel.
D'accord, ce week-end.
Ce week-end à 16h samedi, sur le chapitre honneur.
Ah ben, on va espérer qu'il
contre Canabier, donc qui a perdu 5-1 ce week-end contre Saint-Privat, et qui je pense...
qui n'a rien joué.
Si, qui va essayer de se maintenir quand même, puisque Saint-Christol-les-Alès qui est dernier, qui a gagné 3-2 à Monoblé ce week-end, dans un championnat un peu fou, puisque Monoblé nous bat la semaine dernière, et Saint-Christol qui est décroché dernier va gagner à Monoblé. Donc ce Canabier va venir chez nous... en jouant l'une de ses dernières cartes pour le maintien, donc ce sera pas un match facile. À nous d'aller chercher ce titre dans des super conditions sur le chapitre honneur. Quoi. Tout sera réuni pour.
Ça serait bien de fêter la montée
à domicile. Ouais.
Parce que derrière il restera un match à Vauvert. C'est jamais facile d'aller là-bas. Et un match à la maison contre Nîmes Athlétique, qui a gagné 8-3 ce week-end contre Vauvert, donc qui doit finir la saison tranquille. Donc ce serait bien d'assurer et pour pouvoir ensuite se concentrer aussi sur la Coupe Lozère.
Ouais. Exactement. On parle de coupe, on va revenir aussi rapidement sur la Coupe de la Ligue avec les U15. On les a suivis tout au long de cette année dans ces émissions qui finalement sont tombées contre Castelnau. 3-1, mais un super parcours. Hein.
Oui, puisque depuis le début de la saison, depuis le début de ce parcours en coupe, c'était la première fois qu'ils recevaient. Ils s'étaient toujours déplacés chez des équipes qui étaient hiérarchiquement supérieures, dont Béziers en quart de finale, ils étaient allés gagner 1-0 là-bas, qui est en U15 excellence. Et là, donc défaite 3-1 contre Castelnau, mais Castelnau, c'est une super équipe en jeunes, hein, qui est juste derrière Montpellier et Nîmes pour moi. D'ailleurs, ils affronteront Montpellier en finale de cette Coupe de la Ligue U15. Mais oui, un super parcours. Et bon, c'est sûr, au final, quand on se retournera sur cette saison des U15, on se dira qu'il y a un goût d'inachevé, puisqu'ils s'arrêtent aux portes de la finale. Ils ne vont pas monter en U15 honneur malgré une super saison, puisqu'il y aura eu ces deux défaites contre Beaucaire qui auraient été préjudiciables. Mais c'est le genre de saison qui, je pense, peut permettre de bien partir l'an prochain en U17 avec une super génération. Et en parlant des U17, peut-être monter en U17 honneur, puisque ce week-end, les U17 promo ont battu Kessargues 1-0, qui était 3e, ce qui fait qu'ils sont 2e à 3 points d'Alès. Et il faut encore jouer à Alès dans 2 semaines à Alès.
À l'extérieur, d'accord.
Donc à 3 points, tout est possible, il reste 3 journées, donc ce serait bien pour le club que les U17 promo accèdent en U17 honneur.
C'est 3 points la victoire aussi, 4
points la victoire,
c'est 4
mais
points
un point la
et 1 point la défaite. Donc,
mais pour les deux équipes, il reste 3 journées. Donc,
C'est jouable.
C'est jouable, ouais. Un calendrier est difficile pour les 17 quand même. Mais bon.
Ok, mais on va te laisser la parole parce qu'il y a eu les féminines, la réserve. On sait que tu suis les féminines depuis qu'on les a reçues. 3-0 contre Saint-Georges de Lévéjac et 4e au classement.
Ouais, mais elles avaient même joué lundi, là. Elles avaient joué contre la Margeride, ils ont gagné 8-2 en match en retard. Mmh. Et hier, oui, 3-0 à Saint-Georges avec deux joueuses de la Une qui étaient redescendues pour jouer et qui ont marqué. Donc j'imagine que ça a dû aider. Et...
Ah, ça y est, on redescend ces joueurs
et
de la Une.
Du coup, comme la Une ne joue jamais,
et ouais.
On peut se permettre ça. Mais par contre, là, la Une va reprendre son championnat ce week-end à Castelnau. Et elles vont avoir la chance, même si c'est en fin de saison, elles vont avoir la chance d'enchaîner 4 week-ends. Là.
Bien.
Donc ça va leur permettre de bien finir cette saison.
Ok, côté Nord-Lozère, le NL retombe dans ses travers après un bon match nul à Espaly la semaine dernière, 2-1. L'entente Nord-Lozère qui a perdu 2-1 face à Yzeure. Un but à la 87e minute, donc c'était déjà plié. Et le NL qui est toujours avant-dernier du classement, mais maintenant qui est à 5 points du 12e. Et à 9 points du 11e, ça sent le roussi, Patrick. Hein.
C'était un match capital, puisque Yzeure était juste devant
la réserve
d'Yzeure,
ouais, juste devant.
Et donc, c'est vrai qu'une victoire laissait beaucoup d'espoir du maintien. Avec cette défaite, ça va être de plus en plus compliqué de se maintenir en DH.
Ouais, c'est dommage.
Il va falloir attendre les refontes des nouvelles régions la saison prochaine pour espérer être sauvé pour le NL.
Ça va être compliqué. Mmh.
C'est vrai que c'était une saison de transition avec beaucoup de jeunes, on l'avait dit en début de saison. Et,
avec pas, que des jeunes.
Avec que des jeunes.
Hormis le gardien.
C'était qui tout double et ça n'a pas pris, mais il leur faut peut-être l'expérience à ce niveau-là, Patrick.
C'est vrai qu'il y a eu pas mal de départs dans cette équipe de l'ENL. En particulier le fameux Régis Dessous, bon, qui était quand même un élément important de ce collectif. Bon, malgré le retour de Régis Brunel, bon, qui avait signé à la AFL en début de saison, et puis qui au mercato hivernal est retourné dans son club d'origine pour essayer justement de sauver le NL, bon, ben, on se rend compte que c'est quand même compliqué pour cette équipe du Nord-Lozère. C'est vrai que moi, à mon avis, ça va être quasiment impossible de se maintenir. Mais
alors, je reçois une info qui nous vient directement du Nord-Lozère, qu'il n'y aurait qu'une descente dans la poule de l'ENL.
Alors, ça change tout.
Ça change tout. Et il y a 5 points d'avance sur Vichy, c'est donc ça change beaucoup de choses et c'est très encourageant.
Très bonne saison de l'ENL.
Merci à Flo pour l'info.
Ouais, ah ben c'est une très bonne nouvelle ça.
Ouais.
Ah ben oui, une descente au niveau des H, c'est vrai que c'est quasiment jamais vu.
Il faut faire attention, il reste quand même quelques journées.
Non mais avec je pense que ces refontes là, la Fédé qui a envoyé un document qui explique là c'est RE.
Je l'ai vu, R2, j'ai rien compris quoi.
J'ai rien pigé non plus.
Ah ouais,
ça descend jusqu'à un PH. Ouais. Je sais pas toi Julien si tu l'as vu ce document.
C'est très dur de se projeter. La région toulousaine.
Alors moi je parle de la région Languedoc-Roussillon.
Comme la région toulousaine est plus grande que la région de Montpellier, la région Languedoc-Roussillon, il y a plus de montées pour la région toulousaine. Mmh. C'est hyper compliqué.
Il y en a 4 pour une.
Ouais, c'est ça.
Totalement aberrant, mais bon.
Il y a que Patrick qui a compris le document.
Non, c'est vrai, je l'ai pas vu, mais
vous
m'alertez sur ce document, je vais.
Il est pas facile.
Il avait mis en lien la FL. Ouais, j'étais allé le voir.
Un complément. donc en fait, pour la Ligue Auvergne, il y a les 4 premiers de DH qui montent donc en CFA2. Qui s'appellera la
National 3.
N3. Ouais. Et donc, ça fait repêcher 2 des 3 derniers. Donc voilà, par rapport aux autres saisons.
Ah,
donc,
c'est dommage, ils auraient pu monter avec 4 montées.
Oui, non, mais c'est pas dommage.
C'est très bien qu'ils descendent pas.
Ouais. Mais par exemple, l'an dernier, ils avaient fini combien, le NL?
Ils avaient fini.
Ils étaient dans le haut,
ouais. Ils étaient dans le haut. Ils seraient montés.
Ouais, c'est vrai que les refontes de la région. Ça change beaucoup.
Mais très bonne nouvelle pour nos amis du Nord-Lozère.
Puisque, comme on l'avait fait, ils étaient à la lutte pour monter jusqu'à la fin.
C'est ça.
On aurait pu avoir 2 clubs en CFA de l'année dernière.
Badarous s'enfonce encore, défaite de 2-1 contre Monoblé la semaine dernière. Puis
Saint-Hilaire.
Puis 5-1 cette semaine contre le leader Fourque Badarou qui est 11e sur 12 à 36 points.
Là par contre ça va être compliqué.
Là c'est compliqué.
36 points, il va falloir leur enlever des points aussi par rapport au fair play des cartons, tout ça, les matchs de suspension. Tout ça, ça enlève des points.
Ah bon ?
Ils en ont déjà 2, il me semble, en moins. Et Saint-Hilaire n'en a pas. qu'on m'a expliqué ça, j'étais assez surpris que Saint-Hilaire n'ait pas de match de suspension. Ouais. Connaissant un peu
qui le a club. 3 points devant Badaro.
3 points devant, et Langlade aussi en a, donc Langlade sera décroché, je pense, pour de bon, mais ça sent pas bon pour Badaro. Là, je pense quand même de
PH. Sauf s'il n'y a qu'une descente, ouais, voilà, il n'y a pas trop de
c'est ça, parce que sur le, je pense que le fameux document, il descend jusqu'en PH et. Bon, je vais
mais
dire.
Par contre, pour le document, il me semble que c'est à partir de la saison 2017-2018. Donc,
parce qu'il y avait plusieurs dates.
Ouais, mais,
c'est l'année prochaine, la saison 2017.
Oui, mais de 2017-2018 à 2018-2019, je crois.
Ah, d'accord.
Enfin, il faudrait explorer ça un peu mieux, mais là, pour Badaro, quand même.
C'est ton boulot, Patrick.
Patrick,
de la
tu regarderas ça. Ouais.
Je vais étudier ça.
Pour Badaro, ça semble quand même un peu compliqué. Ouais.
C'est compliqué, ouais.
Tu peux le trouver sur Facebook, sur la page de l'AFL.
La page de l'AFL, ouais.
Et j'irai sans problème.
D'ailleurs, l'AFL, on n'en a pas parlé, qui a fait un partenariat avec un club équatorien. Ouais. Je trouve ça génial, ouais. Il leur a envoyé des chasubles, du matériel, et ils vont essayer de recevoir un jeune.
Peut-être un jeune qui va venir renforcer les équipes de l'AFL l'année prochaine.
Enfin, quand il verra le terrain du Chastel, il voudra vite retourner en Équateur.
Oui, mais quand tu vois la gueule du terrain.
En Équateur, le Chastel, il va dire attends, c'est magnifique.
Je pense que quand il va voir le chapitre, il va s'y rouler dedans.
Le chapitre, c'est différent.
Oui, oui.
Non, c'est sous l'impulsion d'un ancien joueur de l'AFL qui travaille en Équateur, c'est Nicolas Brouillet qui nous écoutait à l'époque quand on retransmettait les matchs tous les deux, qui joue au foot encore là-bas et qui a l'initiative de cette opération, et c'est très bien.
Ouais, c'est une super initiative. Ouais.
Très très bien.
Comme elle a été faite aussi dans un pays africain, via William TWA, que peut-être vous connaissez autour de cette table.
Oui.
Il y a aussi en Afrique des joueurs qui portent les maillots de l'AFL aussi, avec des ballons, des chasubles et pareil.
D'accord. Et ils viennent pas un peu s'entraîner
Non, jeunes, je crois pas qu'il n'y a pas eu d'échange. Non.
Ok. Allez, on va passer au volley.
Juste pour compléter. Vas-y. Sur le football lausérien, le Buisson et Langlade ont aussi perdu, donc c'était un week-end pas facile pour. Le football lausérien.
Tous les Lausériens ont perdu, ouais,
sauf l'AFL.
non, Saint-Georges de Lévejac qui a gagné à l'extérieur 5-0.
À Salindre.
Allez, volleyball, très mauvaise opération la semaine dernière avec cette défaite contre Saint-Jean-d'Illiac, 3-7-2. Au classement, Avignon 27 points, deuxième Mende 25, troisième Épinal 22, quatrième Saint-Jean-d'Illiac 20 points. Mende qui voit Épinal revenir à 3 points de et qui va recevoir Épinal, hein, c'est ça,
au dernier match.
Ouais. Mauvaise opération quand même, Patrick. Hein.
Ah ben c'est sûr, quand tu mènes 2-7-0.
T'étais au match
Non, j'y étais pas.
Ah, t'y étais.
Tu mènes 2-7-0 et tu mènes 24-22.
Ouais.
Donc tu as des balles de match et puis finalement, moi on m'a dit qu'on aurait pu jouer 17, les 17 que tu vis, on n'aurait jamais marqué le 3ème set. Donc il y a eu. Il faut se mettre à la place des joueurs aussi. Hein. Ils sont, à mon avis, carbonisés avec tout ce qu'ils ont vécu émotionnellement et aussi physiquement depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, avant de laisser la parole à Laurent, il faut remercier grandement cette équipe de Fréjus qui non seulement est allée gagner à Saint-Jean-d'Illiac il y a quelques semaines, mais qui en plus a battu Épinal. 3-0. Heureusement que Fréjus a joué le jeu, alors que Fréjus n'a plus aucune chance d'accéder en Ligue B la saison prochaine. Mais Fréjus joue le jeu et a gagné ces deux matchs importantissimes, parce que rajoute 3 points à Saint-Jean-d'Illiac et 3 points à Épinal, ben, ça fait plus la même fin de saison. Alors que là, bon, je vais m'arrêter après là-dessus, mais à mon avis, maintenant, il faut un cataclysme complet pour qu'on ne soit pas dans les deux premiers. Le prochain match est à Alès, on connaît la situation d'Alès, après bon, il y a ce choc au sommet contre Épinal, ça me semble impossible de ne pas finir dans les deux premiers, mais la fin de saison est compliquée.
Alors attends, avant de faire parler Laurent sur ce match, rappelle-nous, le premier qualifié directement, le deuxième, barrage.
Les deux premiers qualifiés directement. Les deux premiers, accession directe à la Ligue B. Bon, après ça se joue aussi en coulisses, comme on le répète depuis le début de la saison. Ceux qui sont en position d'accession, c'est-à-dire les deux premiers, doivent présenter un budget pour la saison prochaine devant la DNACG, c'est-à-dire la commission qui contrôle justement les budgets. Et donc c'est après, suite à l'avis rendu par cette commission, la fédération accorde le droit ou pas à ces clubs d'intégrer le monde professionnel.
C'est la DNACG.
Il y a le niveau sportif et après le niveau, exactement, et après le niveau administratif. Mais bien sûr, si tu finis pas dans les deux premiers, ça va être compliqué.
Ouais, Laurent, ce match, ça donnait quoi
de 7-0 en fait, ce match à contre Saint-Jean-d'Illac, je me suis régalé les trois premiers sets. Je crois que depuis que je vais voir quelques matchs par-ci par-là, j'avais jamais autant pris de plaisir. J'ai vu les trois premiers sets. C'était beau. Vraiment, les deux équipes jouaient merveilleusement bien. Et puis patatrac, deux balles de match, tout le monde est debout, on commence déjà à limite à dire on est un pro D2. Wow. Enfin bon, bref, on s'y voyait tous, quoi. Et puis les joueurs certainement aussi. Et puis bim, on se fait rattraper, doubler, et là on perd 2-1. Et on connaît l'impact psychologique du volleyball. C'est-à-dire que là, ça s'est avéré plus rien. Trou noir, terminé, quoi. Vraiment.
La descente, le tourbillon, quoi.
Ouais, voilà. Le quatrième et cinquième set, il n'y avait plus de réaction. A contrario, en face, eux, par contre, très grosse confiance. Ils avaient quand même, dans l'équipe adverse, un joueur qui a été meilleur marqueur de deuxième division. Et alors il était nul au service, il était nul à la réception, il savait pas faire une passe, mais alors je pense qu'il faisait déjà plus de 2 mètres, une extension de fou, et même nos joueurs au bloc étaient largement en dessous, c'est ce match, donc je veux dire on avait aucune chance, il envoyait des grosses patates, et donc bien sûr ils ont joué que sur lui, il était en réussite totale. Donc c'était quand même frustrant parce qu'il y aurait eu cette victoire, c'était acquis, hein, je veux dire, on va pas se cacher. Et les joueurs vont se remobiliser certainement, mais beaucoup de déceptions dans les tribunes après ce match de Saint-Jean-d'Illac. Il faut pas rougir non plus parce que Saint-Jean-d'Illac est une très belle équipe, je trouve.
Ils sont quatrième quand même.
Oui, quatrième, mais c'est très cohérent, toute l'équipe. Belle équipe de Saint-Jean-d'Illac, quoi.
Et cette semaine sans match va leur faire du bien aussi.
Oui, donc là il y a ce match importantissime samedi, déplacement à Alès, un derby face à nos voisins gardois, dont on sait qu'ils sont en décrépitude totale, puisque on ne sait même pas s'il y aura un club de volley dans cette ville
l'an prochain.
Donc méfiance, hein, là aussi il va falloir bien sûr être concentré. Et puis tu parlais de ce joueur de Saint-Jean-d'Illac, c'est vrai qu'on le connaît bien, c'est Tagen. Et donc il jouait à Sochaux, et donc notre premier passage à ce niveau élite il y a quelques années, donc on a affronté Sochaux, et donc Tagen jouait à Sochaux, et donc on connaît toute la qualité de ce joueur qui a fait aussi bien sûr pas mal de clubs en Ligue B, Ligue A. Moi je me souviens l'avoir vu jouer dans les rangs avignonnais, où il était aussi stratosphérique, donc on sait qu'il est capable à lui tout seul de gagner un match, et c'est quasiment ce qui s'est passé lorsqu'on a joué Saint-Denis.
Avec un joueur qui a un fort caractère, puisqu'il s'est permis d'engueuler dans les tribunes les supporters qui s'amusaient à perturber sur les temps morts, avec un gros tambour là, juste au-dessus des joueurs là, quand le coach parlait. Et notre ami Tagen s'est retourné en montrant du doigt à la personne qui tapait sur le tambour. J'étais juste à côté, je me disais, j'espère qu'il ne va pas monter. Cela dit, sa tête était déjà au niveau des tribunes. Voilà. Et puis bon, assure ce match. Mais moi, je n'ai pas tout perdu, messieurs, puisque Patrick était à la finale de la Coupe de France. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une tombola humanitaire. Oui. Donc chaque club avait amené un maillot dédicacé. Il y avait un maillot aussi dédicacé de l'équipe de France des Jeux Olympiques. Et j'ai gagné lequel de maillot ? Celui de Mende. Voilà. Donc j'ai le maillot du club de Mende dédicacé par les joueurs.
Ah bah c'est bien.
Voilà, c'est super.
Tu vas pouvoir le mettre au prochain match.
Oui, oui, je pourrais le mettre. Ouais, tout à fait, puisque c'est une grande taille.
C'est énorme. Ouais.
Ou alors tu l'apportes dans un prochain studio. Excellent souvenir.
Non, je l'ai accroché chez moi.
Voilà. Il reste 2 matchs, hein, c'est ça ?
Oui, 2 matchs.
Et Pinal, donc, ils viennent chez nous au dernier match. Et là, ils vont où ?
Ils reçoivent Avignon.
Ah, donc, mais c'est une bonne nouvelle, ça.
Énorme match, ouais.
Parce qu'Avignon, ils peuvent être champions, j'imagine, s'ils gagnent le prochain match.
C'est ça.
Bon, mais c'est bon, alors, c'est réglé. Ouais. On va monter.
Et nous aussi. Pas champion, mais...
Le match contre... Nous, on peut monter.
Ouais, le match contre Épinal à la maison pourrait servir à rien, entre guillemets. Quoi.
Ah ouais, c'est exactement. Ça.
Si Avignon avait la bonne idée d'aller gagner à Épinal et Mende à Alès...
Voilà, samedi soir, tu es en Ligue B.
Ah ben, on parlait des calendriers, on a un calendrier hyper favorable, là.
Ah oui, mais oui. Ça, c'est... Ça, c'est sûr.
Enfin, Avignon n'a pas gagné à Épinal.
Ouais, et nous, on n'a pas gagné à l'Est.
Non, c'est à Avignon.
C'est à Épinal.
Ah, c'est Épinal, mais ils s'en fichent, Avignon.
Oui, surtout qu'Avignon avait quand même gagné à Saint-Jean-d'Illac 3-0 la semaine d'avant.
Oui.
Ils sont en forme, là, Avignon.
Donc, Avignon, c'est en forme.
Non, mais c'est vrai.
Ludovic, il est avignonné d'un coup.
Ouais, moi, j'aime bien cette équipe d'Avignon. Allez, on passe à la pré-nationale garçon qui a gagné à la Croix d'Argent, qui n'est plus relégable. Tout se jouera samedi prochain lors de la dernière journée avec la réception de l'ASBAM 6e, qui faudra essayer de gagner, si possible, 3-7-0. Montpellier qui reçoit 7VB 4e. Les pré-nationales filles également 3-2 face à l'ASBAM, surtout que l'équipe de Moguio s'est inclinée chez elle face à Gignac 0-3. Donc, rendez-vous dimanche prochain à midi pour le dernier match face à Gignac qui est 7e. Tandis que Moguio aura un déplacement difficile à Nîmes 4e, donc on y croit aussi pour les filles.
Elles reviennent de loin.
Elles reviennent de loin, ouais. C'est possible qu'elles se sauvent cette année.
Tant mieux.
Le handball, le MGC perd à Valence 28-27. Alors ça c'est rageant parce que d'après les dires du club sur leurs réseaux sociaux, 5 immanquables à 6 mètres dans les 10 dernières minutes alors que le MGC menait 2-2. Un gardien valentinois très performant et au final du coup on repart avec une défaite. Alors c'est quand même un mal pour un bien parce que derrière ça a perdu encore, ouais. Julien. À part Voiron, je crois qu'il a gagné.
Bah, tu vois en velin, ouais,
c'est ça. Sinon, ça a perdu. Donc, on garde cette 9e place qui nous sauverait.
Oui, puisqu'il y a plus de barrage. La fédération a changé ses calculs là aussi. Et donc, c'est désormais officiel. Le 9e se maintient, il n'y a plus de barrage.
Voilà, donc 9e, l'étoile des sports de Montluçon qui est derrière nous à 2 points. Voiron qui est derrière nous à 4 points. Et Voix-en-Velin qui est à 6 points.
Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interroge dans ce classement. C'est que je crois que Valence était la 19e journée. Et donc là, je vois qu'il n'y a marqué que 18 matchs.
Ouais, j'ai regardé.
Donc il me semble que ce classement est faux. Mais là, vous n'êtes pas responsable parce que je pense que même la fédération, sur le site de la fédération, je pense que le classement est faux.
Ah, c'est ce que je demandais à Julien. Donc, je l'ai pris sur le site de la Fédé, ça m'a étonné.
Il y a une erreur.
Il reste même 3 matchs.
Ouais, et puis dans les calculs,
donc,
en plus, dans les calculs
donc, du classement, avis, il y a 18 à mon avis, journées. Mais... À mon avis, le vrai classement, c'est Mende à 31,
ouais.
Montluçon à 29. Mais Voiron à 29.
Ah tu oui, vu qu'ils ont gagné. Tu as raison, Patrick.
Et donc, Voix-en-Velin à 25. Voix-en-Velin, bon, il faut les considérer presque comme cuit. Mais donc, tu vois qu'on n'a plus que 2 points d'avance sur les 2 clubs qui sont derrière nous. Et donc, devant, je crois que Fontaine a gagné. Donc, ça leur ferait 39. Donc, quasiment irrécupérable. Et Saint-Genis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais...
mais bon, ça leur fait 35 au minimum.
Voilà, tout à fait.
Donc,
tout à fait, cher Aurélien. Donc, ça se resserre. Même si on garde notre deuxième place, ça se resserre. Et donc, ce samedi, à la Vernade, on a un match hyper compliqué, puisqu'on reçoit Bourgoin. Et Bourgoin,
qui est deuxième.
Ouais, et je pense qu'ils ont gagné. Donc, ils confortent leur deuxième place. Et là, par contre, le deuxième fait les barrages. Donc, Bourgoin va venir à toute berzingue pour consolider sa place de barragiste pour la montée en N2.
Il n'y a pas un calendrier facile. Enfin, là, ils reçoivent Bourgoin et c'est surtout donc dans 2 semaines, je crois qu'ils jouent pas, donc ça doit être dans 3 semaines, ils vont à Montluçon.
À Montluçon, voilà.
Pardon. Ils vont à Montluçon avant de recevoir Saint-Priest pour la dernière journée. Donc il y a un déplacement chez un mal classé et 2 réceptions de 2 gros de la poule. Oui.
Non, mais oui, là, il faut laisser un appel au public pour ce match de samedi. Il faut que la Vernade, vraiment, on retrouve l'éruption volcanique de ce gymnase pour justement pousser nos couleurs et renverser. Cette équipe de Bourgoin, samedi à 20h30, il faut qu'on assiste un peu à ce qu'on a assisté, ce match contre Agde, j'en reparle souvent, ce match qui avait fait l'accession justement.
Il faut que ce soit une corrida.
Voilà, exactement.
Voilà.
Et il faut que cette équipe de Bourgoin soit quasiment déboussolée par la pression du public, bien sûr tout en restant fair play, bien évidemment, mais qui est quand même cette pression. Sur les arbitres, pourquoi pas, et sur l'équipe adverse. Ça serait
ce qui
pas
est
mal.
Intéressant, c'est que le MGC a souvent fait des bons matchs contre les premiers. Oui. Donc, ça sera l'occasion de confirmer cette règle.
On a souvent fait des bons matchs,
mais pas souvent gagnés. Mmh. Mais bon, il faut encore y croire. On est à la 9e place. Il faut la garder. Voilà, c'est tout. Et puis, il y a ce match à Montluçon. Avec 16 buts d'avance, Montluçon, on a 2 points d'avance sur Montluçon, on peut dire 3 parce qu'on a quand même 16 points d'avance. J'imagine pas qu'on prenne
au goal average particulier,
qu'on prenne une tannée si grosse que ça. Mais enfin, il reste 3 matchs, Montluçon peut nous doubler, c'est vrai. Voilà.
Et ouais, ce match va compter double, il va être hyper important. Hein, donc pourquoi pas
les 3 matchs vont être.
Pourquoi pas aussi faire un déplacement de supporters à Montluçon Parce qu'on sait que l'appui du public va être hyper important sur ce match-là.
Tout à fait.
Non, mais il faut prendre exemple sur il y a quelques semaines, quand on a battu l'Auriol. Je me souviens avoir entendu les responsables de l'Auriol dire clairement aux dirigeants du MGC, juste avant le match, qui venaient là pour jouer la montée. Donc ils étaient surmotivés eux aussi, et ça n'a pas empêché le MGC de maîtriser totalement ce match, et de, avec cette belle victoire qui justement nous a relancé vers cette 9e place. Je pense qu'il faut s'inspirer grandement de ce match contre l'Auriol et le reproduire face à Bourgouin.
Alors j'ai un petit message qui nous vient encore du Nord Lozère. C'est Montluçon qui va jouer chez le dernier au dernier match, donc à Vaulx-en-Velin. Donc ça serait bien qu'on ait assez d'avance sur cette dernière journée, puisque certainement Montluçon va gagner à Vaulx-en-Velin, qui ne jouera rien du tout.
Ben oui, on peut pas laisser que Vaulx-en-Velin soit relégué avant cette dernière journée.
Vaulx-en-Velin qui ne fera pas de cadeau au club du MGC. On a pu le voir sur le dernier match où il y avait quand même des dirigeants qui était assez tendu.
Il y a eu cet entraîneur
qui doit pas aimer la Lozère, j'imagine.
Non, mais là il y a eu c'est vrai cet entraîneur qui s'est pas gêné presque de défier le public, et puis bon, qui a poussé quand même Maxime André dans le dos, alors que Maxime André séparait un joueur de Vaux avec un joueur du MGC. C'est vrai qu'on a assisté à quelques passes d'armes avec ce coach de Vaulx-en-Velin. C'est vrai que c'est rare de voir ça. Hein.
On se focalise sur Montluçon. On dit qu'on a 16 buts d'avance au cas où on arrive ex aequo. Donc c'est bien. Par contre, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si Patrick, tu te rappelles par rapport à Voiron. Qu'est-ce qu'on a fait contre Voiron?
Mais je crois qu'on a perdu
les deux matchs.
Je crois qu'on a perdu les deux matchs.
Ouais, chaque fois de but. Du coup, c'est râpé. Il ne faut pas arriver avec Zeko et Voiron. Voilà,
c'est ça. Allez, match ultra important, c'est samedi soir.
Oui, samedi soir, 20h30, Vernède contre Bourgouin.
Allez, super. On fait une rapide pause musicale avant de parler de l'actu nationaux et internationaux.
Et on peut parler des féminines aussi.
Vas-y.
Qui se sont qualifiées du handball, qui se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Elles ont gagné à Ramon il y a 15 jours, et donc là, leur championnat est terminé. Donc maintenant, elle se prépare pour les quarts de finale, donc qui auront lieu ce week-end. Mais elles ne connaissent pas encore leur adversaire, donc je ne peux pas vous en dire plus sur l'horaire.
Allez, à suivre pour la prochaine émission alors. Allez, c'est reparti. Une petite précision qui nous est venue du Nord-Lozère, Laurent.
Oui, alors on a dit une bêtise concernant les deux matchs de du MGC contre Voiron. Donc si MGC arrive à égalité avec Voiron à la fin de la saison, ça sera le MGC qui sera devant, puisqu'il y avait eu une victoire à plus 9 amendes et une victoire à Voiron plus 1.
Voilà, on a confondu avec Saint-Genis-Laval.
Voilà, c'est ça.
C'est contre Saint-Genis qu'on a perdu les deux matchs.
Voilà, donc c'est une bonne nouvelle.
Donc c'est une bonne nouvelle. Après celle contre Montluçon, où bien sûr, il ne faut pas prendre une tannée. Il faut d'ailleurs gagner. Ouais. Il faut gagner, puis c'est tout. Mais au cas où ça se passe mal.
Bon, c'est toujours ça de prix. Ouais. Allez, l'actu nationale internationale, on n'est pas revenu sur la Ligue des Champions, vu qu'il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. Donc on va passer directement au tirage au sort, hein, on ne va pas parler de ce match contre Dortmund qui est passé et bien passé. La Juve, pour moi, c'était le meilleur tirage possible, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Non.
Ouais, non. C'est bien, on va en débattre. Pourquoi Laurent ?
Moi, je pense que c'était plutôt l'Atlético Madrid, parce que...
À jouer l'Atlético, c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est compliqué, mais je pense que la Juve, c'est encore plus compliqué. Et le Real, bien sûr, un cran encore au-dessus. J'aurais préféré l'Atlético.
Julien, pareil.
Moi, je pense que le meilleur tirage pour Monaco, ça aurait été surtout de recevoir au retour. Parce que...
Ah, il est malin, ce Julien. Ouais, t'as vu comme il détourne les réponses ouais.
Non, mais parce qu'ils avaient perdu 5-3 à City, ils étaient passés à la maison. Ils avaient gagné 3-2 à Dortmund, bon, dans un contexte un peu particulier, mais ils ont gagné 3-1 à la maison contre Dortmund. Et je pense que ça va pas être facile d'aller au Juventus Stadium pour le match retour. Ce sera un peu la revanche de il y a deux saisons.
C'est ça. Ils avaient perdu d'un but au final.
Ils avaient perdu 1-0 et là, à Turin sur un pénalty qui avait été limite et ils avaient fait 0-0 à la maison. Donc,
il y a 5-6 joueurs de Monaco qui étaient là-bas à cette époque.
Il y a quasiment plus aucun joueur.
Et ça a beaucoup bougé à la Juve par contre.
Ça a beaucoup bougé, ouais.
Il y a Parlogol et Chiellini, il ne doit pas y en avoir d'autres.
Et Khedira qui est suspendu pour le match aller à Monaco, donc ça c'est pas mal, parce que c'est le poumon quand même de cette équipe. Pourquoi pas le meilleur tirage, Patrick ?
Moi, je trouve que la Juve... Alors c'est vrai qu'en tant que supporter marseillais, on essaye de comparer les deux équipes, et quand tu vois cette défense monumentale de la Juventus de Turin...
À 6-5 minutes, sans prendre de but,
En particulier ce Bonucci... Bon, nous, on a Fanny, eux, ils ont Bonucci, mais c'est vrai que sur le coup, c'est nous qui sommes Fanny. Et donc, ça se met à rêver d'une défense solide.
Eux, ils ont Bouffon, nous, on a Pelé.
Voilà, non, mais...
Oh, il n'est pas si mal Pelé, il a fait...
Il revient bien, là. Mais c'est vrai que ça laisse rêveur. Et donc, je me dis que malgré l'attaque de feu de Monaco... Ah, c'était défense de la Juve. Bon,
zéro but quand tu
vois
ça.
Non, mais quand tu vois ce bon outil, mais franchement,
je le rêve.
Ah, les deux défenseurs centraux de la Juve,
c'est énorme.
Continue de rêver, Patrick.
T'as l'impression que ces deux défenseurs centraux de la Juve, c'est des frères jumeaux, quoi. Voilà. Ouais, vraiment, ils sont tout le temps dans le bon timing, ils sont complémentaires. Oui, c'est vraiment une très bonne défense. Mais d'ailleurs, la Juve qui s'est pris que deux buts dans toute la campagne européenne.
Et il y a très longtemps en plus qu'ils les ont pris.
Donc c'est ça qui m'inquiète pour Monaco.
Dans un de Lyon.
Pas très bon tirage pour Monaco.
Mais Monaco peut quand même passer.
Monaco, c'est 3 buts par match, hein, quand même, hein, qui que ce soit. Hein.
C'est vrai.
Et ouais, et 3 buts à City, après 3 buts à City encore. Et Dortmund, 3-3, la Juve.
Mais moi, je trouve que là aussi, où la Juve a progressé, ça a toujours été une équipe avec de très bonnes défenses. Là, ils arrivent aussi à faire la liaison avec l'attaque, quoi. Là, on a le petit Dybala qui commence à exploser, qui est un phénomène de
surcoté, Dybala.
Non, pas du tout.
Mais
pas
si.
Du tout. Avec devant, c'est
Higuain et Mandzukic. Le futur Marseillais, Mandzukic, le futur Marseillais.
T'imagines, leur attaquant numéro 3, il va finir à l'OM, c'est pour te dire comme il est bon.
On le prend de suite, Mandzukic.
Surtout le coach de la Juve, Allegri, qui fait un super travail, puisqu'il a abandonné la défense à 3 de la Juve pour repasser dans un système plus classique. Et sa trouvaille, c'est d'avoir mis Mandzukic en ailier gauche.
Et arrière gauche.
Qui lui permet de faire les. Qui fait les efforts, qui s'adapte parfaitement à ce système-là, et après, Dybala, Higuain.
Et tu crois pas que Jardim a aussi trouvé un bon équilibre ?
Ah oui, non mais Monaco, mais je pense que Monaco est plus mature qu'il y a deux saisons, même s'il y avait déjà des bons joueurs avec Ferrar Carrasco, Anthony Martial, c'était déjà des bons jeunes, mais je trouve que cette année c'est plus cohérent, c'est plus mature, et il y a peut-être quelque chose à faire.
Un des gros avantages de la Juve aussi, c'est qu'ils ont plus Evra.
C'est vrai.
Qui est parti.
Ouais. Mais il est dans un
récupéré aussi. Hein. Ouais,
tu parles de maturité. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, en fait, à Monaco. T'as Mendy qui connaissait pas la Ligue des Champions. Mbappé, n'en parlons pas. C'est plutôt de l'insouciance, moi, je dirais.
Il n'y a pas de joueur de Monaco qui a déjà joué une
hormis la défense.
De la Ligue des Champions.
Oui, oui. Donc ça va être hormis la défense, là, avec le Polonais et je ne sais plus qui c'est qu'il y a, Jamerson. Les autres, je pense que c'est plutôt de l'insouciance.
Il faudra voir les suspendus aussi côté monégasque. Hein. Je ne sais pas s'ils en ont pas pour ces deux matchs. Pour le match aller, non. Bah, très bien, ça. Parfait. Comme les deux prochains lundis sont fériés, que les championnats se terminent, on fera une belle et grande émission délocalisée certainement dans 3 semaines. On reviendra dessus, on vous donnera la date, les invités. Et du coup, on peut parier même sur ces deux matchs pour changer le classement. Deux matchs. Ah non, t'es déjà champion, t'as 5 points. Il est champion.
Non, mais il faut faire. On va parier sur 3 matchs alors.
C'est le sacre.
On peut parier sur.
On peut parier sur Lyon puisqu'ils sont en demi-finale aussi.
Ah non, mais tu sais ce qui se passe. On va compter les paris qu'on a fait en début de saison sur le basket, sur le rugby et sur le championnat de Ligue 1. Si jamais on va rajouter des points. Comme ça peut changer.
Il peut rien arriver, moi.
Mais si, toi, tu vas récupérer les pronostics de Christophe qui nous a quittés dans cette émission. Hein, c'était pas mal ses pronostics.
Tout à fait.
Il avait dit le Saint-Etienne champion, des trucs comme ça.
Nice en Ligue 2.
Allez, on va parier sur les deux matchs, l'aller et le retour d'entrée, le champion. Ça commence à la Juve.
Non, à Monaco.
Monaco, pardon.
Donc le match aller.
Tu donnes les deux.
Alors, match aller, Monaco 3, Juve 1.
L'autre, il nous parle de la défense pendant 2 heures. Ouais. Et 3-1. Ok, c'est très bien,
parce
Patrick.
Que je les vois quand même en finale. Donc 3-1 au match aller pour Monaco et au match retour, 2-1 pour la Juve.
Très bien. Aurélien.
Alors, au match aller, 2-1 pour Monaco et au match retour, 2-0 pour la Juve.
Ah, on est éliminé.
Ouais.
D'accord.
Je vois pas la Juve prendre un pion chez eux.
Oui, c'est possible. Vas-y, Julien.
Match aller 2-1 Monaco et 3-1 Juve au retour.
Éliminé aussi. Ouais. Merci Patrick de redorer le blason des clubs français.
Je suis niçois.
Oui, c'est vrai.
Principauté, moi.
Laurent.
Le prince de Bel Air.
Paye pas d'impôts. Donc, au match aller 0-0 et au match retour à la Juventus 1-1. Donc je dis que Monaco se qualifie pour la finale.
Très bien ça, Laurent. Mais je vais dire un 2-1 pour Monaco match aller et un 1 partout au match retour. Un 2-2 au match retour. Tiens, je change. Monaco qui se qualifie aussi. Alors, il faut savoir que grâce à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa, Monaco et Lyon, l'indice UEFA mis à jour après chaque tour des compétitions européennes, place la France sur le podium derrière l'Espagne et l'Allemagne. Donc ça, c'est une nouveauté. Et la France atteint un coefficient de 14,083 devant l'Angleterre 14,071 et l'Italie je ne sais pas combien. Donc ça, c'est important aussi à noter pour les prochains.
Oui,
je sais pas si ça a effet directement.
Non, c'est calculé sur les 5 ans. Donc sur les 5 ans, on est derrière les 4 gros championnats. Mais à terme, ça peut nous permettre de faire des tours en moins préliminaires, en particulier au niveau de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa aussi.
Enlever un tour en Ligue des Champions, puisque Monaco qui est en demi-finale, ils ont commencé leur saison européenne depuis juillet. Ils avaient affronté Villarreal et Fenerbahce, il me semble.
Alors, Martial a marqué ce week-end avec Manchester.
Oui. Un but de 70 mètres.
Un but de 70 mètres.
Qui vaut 10 millions d'euros.
Qui vaut 10 millions d'euros. Voilà où je voulais en venir.
Qui vaut 10 milliards.
Alors, il vaut 10 millions d'euros à Monaco et il vaut aussi 75 000 euros au club des Ulysses, le club formateur de.
Et 2 millions à.
D'Anelka et puis surtout de.
De Martial.
De Martial.
Bon allez, on n'a pas le temps de revenir sur le reste, c'est déjà 1h30, on parle juste rapide de rugby avec 2 clubs français dans 2 finales de Coupe d'Europe et de handball avec Paris qui est en ballotage favorable en Ligue des Champions et Montpellier légèrement défavorable, c'est ça?
Oui,
c'est ça.
Des clubs hongrois, oui.
Bon, mais c'est...
En rugby, clairement en finale de la Grande Coupe d'Europe et le Stade français en finale de la Petite Coupe d'Europe.
Ouais, j'ai regardé clairement hier, c'était stressant à la fin du match parce que les autres étaient quand même essayés de passer devant et voilà, ils ont tenu le coup, bravo.
Et sans l'arbitrage vidéo, tu peux imaginer que Clermont a été éliminé, puisque l'arbitre accorde l'essai et donc Rougerie vient lui dire qu'il y a une faute sur lui. Et donc l'arbitre l'écoute, il regarde la vidéo et fort justement il refuse de laisser. Et donc le match n'aurait pas été le même.
Il refuse de laisser et il te donne une pénalité, tu marques 3 points derrière. Hein.
Donc tu passes de moins 7 contre toi à plus 3 pour toi. Donc ça fait toute la différence, ça fait 10 dégâts.
J'ai l'impression que les arbitres de football devraient s'inspirer des arbitres de rugby, puisque là quand il y a le joueur qui est venu lui dire écoutez, vérifiez, j'ai une faute sur moi, il l'a fait à bon escient. Peut-être qu'il y aurait des arbitres de football qui pourraient s'en inspirer.
Oui, parce qu'on avait quand même certains faits de jeu en Nancy, il faut quand même le dire.
Oui.
Il y a eu quand même certains faits de jeu. Ouais, c'est passé au contraire. Chose, ouais. Il y a eu bon, notre ami arbitre, d'ailleurs, qui est Nîmois, qu'on connaît bien.
Qu'on voit souvent à Mende.
Ici, voilà, notre ami Nicolas Rainville, qui, bon, pour le coup, nous a fait un peu mal aux pattes.
Non, mais les matchs de Lyon dureraient 3h30, parce que le temps de revoir tous les pénaltys qui sont sifflés, qui ne sont pas, on ne s'en sortirait plus, là.
Non, mais c'était juste pour dire que dans le football, un arbitre, si tu viens lui dire « Attendez, monsieur, hop, là, tu prends ton carton jaune, tu dis « Fermez là, vous me faites chier ». Alors qu'au rugby, ben, finalement, c'est un sport de brut, mais c'est des gentlemen, autant que sur les joueurs ou les entraîneurs, ou les arbitres, pardon.
Julien ?
Ouais, pour finir rapidement sur le hand, Paris donc, qui a gagné plus 3 à chez Gad hier.
Dans une ambiance de fou.
Dans une ambiance de fou. Il y avait un bruit juste à travers la télé, on entendait... Alors, dans le gymnase, ça devait être juste incroyable. Et chez Guet, qui avait l'occasion de revenir à moins 1, à une minute de la fin, au meilleur rentre sur un 7 mètres et au meilleur le sort. Et donc derrière, la dernière action, Paris marque plus 3. Et Montpellier, qui quand même est allé faire un super résultat à Veszprém, parce qu'ils ont perdu que moins 3, entre guillemets. Et Veszprém, c'est quand même un très très gros du handball. Et donc il y aura quelque chose à faire.
Handball.
Et il y aura quelque chose à faire.
C'est Harman.
À Bougnol pour le match retour, puisqu'ils ont décidé de recevoir à Bougnol et pas à l'Arena.
C'est bien, ils ont raison. C'est à côté de chez Luc, c'est Luc qui a demandé.
Voilà, pour qu'il puisse rentrer pour l'apéro plus rapidement.
Ouais. Pour pouvoir se garer aussi.
Aurélien.
Juste pour finir, pour en revenir sur le rugby, on terminera là-dessus. Match qui sent le soufre ce week-end en top 14, puisqu'il y a la fameuse affiche Racing Stade Français, c'est ce week-end. Ah oui. Après cette histoire de fusion,
ils vont se faire passer entre eux, ils vont se tromper. Allez, en tout cas, voilà, on va être en demi-finale Ligue des Champions, en finale en rugby, peut-être en handball, le sport français se porte bien.
Et en tennis aussi.
Et en tennis, on n'est pas descendu chez les féminines, merci Laurent. La Coupe Davis, on se maintient.
Fed Cup,
et l'AFL qui va monter. Et le volet aussi.
Et le volet aussi. Et le hand va se mettre.
Et le maire à demande qui va se gratter la tête.
Et voilà.
Qui était hier soir lors des résultats. Et c'est un trahir de secret. On a plus parlé de sport que de politique. Donc voilà. Chacun ses priorités, comme dirait l'autre.
Allez, c'est parti. Ciao. Allez, à bientôt, les gars.
Au revoir.
Salut.
Les Street John au couloir numéro 2, allez les Street, c'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tapis apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tapis apéro.